France Inter.
Aujourd'hui, inondation quand l'urbanisme aggrave la montée des eaux, racontée par
Magali Reguezazit, géographe et spécialiste de catastrophes naturelles.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Février dernier, à la Réole en Gironde, des employés municipaux traversent une route noyée par la Garonne en crue. L'eau a tout envahi, les champs, les rues, les parkings, les maisons. Dans toute la moitié ouest du pays, les cartes de vigilance se sont teintées de rouge. On a parlé de crues généralisées avec des bassins versants saturés et des épisodes pluvieux intenses. Depuis des décennies, les paysages ont été transformés, des haies arrachées, des zones humides asséchées, des prairies converties en grandes cultures. Avec ces rivières qui ont été modifiées, les villes se sont étalés et ont été imperméabilisés. Petit à petit, tout ce qui permettait de ralentir et d'infiltrer l'eau a été dégradé. L'appauvrissement des sols est tel qu'ils ne peuvent plus retenir la pluie. Résultat donc, quand les précipitations s'intensifient, l'eau se concentre en aval et déborde. Derrière ces choix techniques, il y a aussi une logique d'hyper-contrôle hydraulique qui est coûteuse et qui peut parfois masquer les causes profondes, car il faut drainer, canaliser, construire des digues, creuser des bassins et curer les rivières. Mais si la réponse était ailleurs, ralentir plutôt qu'accélérer, infiltrer plutôt qu'évacuer, restaurer des sols vivants, des forêts diversifiées, des rivières libres, désimperméabiliser les villes, recréer des zones d'expansion de crues, bref, apprendre à cultiver l'eau comme certains le disent. Après les crues de février, la question n'est peut-être plus seulement comment se protéger de l'eau, mais comment redonner au territoire la capacité de l'accueillir. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Les sols ont une qualité qui s'est dégradée avec le temps, notamment liée à l'agriculture intensive. Ça fait qu'ils ont perdu une capacité de stockage de l'eau. Et c'est un petit peu comme l'exemple d'une grande carafe qui serait la pluie avec un verre. Le verre, vous pouvez le remplir plusieurs fois et le vider tranquillement. Eh bien, c'est l'exemple du sol. Avec une capacité réduite, il est moins capable d'absorber les pluies intenses.
Selon le GIEC, le dérèglement climatique va rendre les pluies plus intenses et plus fréquentes, exposant des millions de Français à des inondations de plus en plus violentes.
Et on entendait Florence Abetz, hydrogéologue au CNRS, c'était le 21 février dernier sur l'antenne de France 24. Bonjour Magali Reguezazit.
Bonjour.
Ces inondations qui ont traumatisé de nombreuses régions et qui ont plongé des milliers de personnes dans le désarroi encore aujourd'hui, il faut malheureusement considérer qu'elles vont se multiplier.
Alors en fait, on oublie qu'elles existent déjà et qu'on en a chaque année. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Effectivement, ce qui va se multiplier, c'est l'intensité des dommages. Parce qu'en fait, c'est ce qui a été dit, avec le changement climatique, il va pas forcément pleuvoir plus, mais quand il pleut, les pluies sont plus importantes, plus intenses. Les phénomènes intenses de pluie sont plus fréquents. Enfin, sont pas plus fréquents, pardon, non, mais sont plus importants. Et donc, de fait, comme on a cette pluie importante qui arrive sur des territoires qui se sont fragilisés, à la fois parce que les activités qui sont présentes sont plus exposées, les populations sont plus exposées, et puis parce que la manière dont on a aménagé ce territoire, dont on a la transformé, fait que, eh bien, on va avoir une modification des phénomènes physiques, on va avoir aussi une propagation des dommages, on va avoir une transformation des dommages.
Ouais.
Eh bien, tout ça fait qu'on a le cocktail idéal pour avoir plus de catastrophes.
Vous dites que ça va s'intensifier, pas forcément se multiplier. Pourtant, on a quand même le sentiment que ces inondations, ces crues sont de plus en plus nombreuses et qu'il n'y a jamais eu autant de pluie que ces derniers mois. D'ailleurs, les études le montrent.
Alors, il faut faire attention entre ces extrêmes. C'est-à-dire qu'on va en fait avoir, avec le changement climatique, plus il s'intensifie, plus on va avoir ce qu'on appelle de la variabilité entre les années. On va avoir des hivers très très pluvieux.
Mmh.
On va avoir des hivers, au contraire, peu pluvieux. Ce qu'on imagine aujourd'hui, ce que dit Météo France dans son dernier rapport, qui est accessible à tous, hein, j'insiste, parce que le travail de Météo France, il a été vraiment remarquable. On a aujourd'hui en ligne, hein, il suffit d'aller chercher sur le site de Météo France, qu'on appelle la TRAC, la trajectoire d'adaptation au réchauffement climatique. On voit en fait que va être notre futur climatique à horizon 2050. Ils vont pas, donc on va avoir à l'année, il pleut à peu près de la même manière.
Mmh.
Mais ces pluies ne sont pas réparties de la même manière sur l'année. Et surtout, on a des années très pluvieuses, des années moins pluvieuses. Et ça, c'est très compliqué, parce que ces écarts font que pour s'adapter, est-ce qu'on s'adapte au trop peu, au beaucoup trop ? Tout ça va demander de revoir notre manière de vivre avec ces extrêmes hydrologiques.
Justement, le rôle du climat, il est prépondérant dans ces événements-là, ces dernières semaines ?
Alors, non, il n'est pas prépondérant. Enfin, ça dépend en fait ce qu'on regarde. Si on regarde le mécanisme physique, on sait aujourd'hui qu'on a des mécanismes très classiques, hein, des orages, des précipitations, tout ça, on connaît. Le changement climatique va doper certains événements. Mais ce changement climatique et ces événements physiques, ils arrivent pas n'importe où. Ils arriveraient dans le désert, il n'y aurait pas de problème. Ils arrivent sur des territoires qui ont une histoire, qui ont connu, notamment dans les 30-40 dernières années, des dynamiques démographiques, économiques, foncières, des mutations très, très, très profondes de leurs activités, mais aussi de la répartition des êtres humains et des infrastructures. Et quand vous mettez en face d'un phénomène physique de l'exposition de personnes, de biens, d'activités qui sont intrinsèquement fragiles, eh bien, ça crée une catastrophe. Et c'est ce qui vous explique qu'on peut avoir des très faibles pluies, très faibles, relativement faibles pluies, avec des gros dommages, et puis qu'on peut avoir de très grosses pluies et très peu de dommages.
Donc c'est le régime de pluie qui va changer aussi là, dans les mois qui viennent,
hein. Alors le régime de pluie change, c'est-à-dire qu'en gros, sur l'année, on va avoir des étés de plus en plus secs, ouais. Ça on le sait. Les hivers ne vont pas être forcément moins pluvieux, par contre, ces pluies intenses vont devenir beaucoup plus intenses. Tout à l'heure, Florence Apetz parlait de la carafe, au lieu d'avoir un verre d'eau, vous versez ouais. directement la carafe. Pourquoi ? Parce qu'une masse d'air, quand elle est plus chaude, elle peut contenir plus d'eau. Et donc il pleut plus quand il pleut. Quand les conditions sont réunies, le changement climatique va doper ces événements. Ça ne veut pas dire que sans changement climatique, ces événements n'auraient pas eu lieu. Ce qu'on va regarder, c'est en quoi le changement climatique intensifie ces événements. Quelle est la probabilité que ces événements arrivent dans un climat réchauffé par l'homme, mais non réchauffé par l'homme. Et c'est là que les climato-sceptiques, en fait, sont vicieux. Parce que quand ils arrivent, ils expliquent qu'il a toujours plu. Il y a toujours eu des inondations, bien sûr. Mais d'une part, les mécanismes sont plus intense, et d'autre part, la société face à ces mécanismes a changé et paradoxalement s'est fragilisée.
Donc on est plus vulnérable aujourd'hui, pourquoi ? Par une densité justement de population, alors, d'aménagement ?
C'est pas qu'on est plus vulnérable, c'est qu'on est différemment vulnérable, même si l'expression n'est pas bonne. Dans le passé, quand on avait des inondations ou des crues, on mourait. Aujourd'hui, on a relativement peu de victimes. Par contre, on a beaucoup plus de dommages matériels. On a aussi de plus en plus de dommages aux activités agricoles et industrielles. Pourquoi ? Parce que l'exposition s'est beaucoup modifiée. On a densifié dans des zones inondables parce qu'on se pensait à l'abri. Et puis parce que derrière, les populations, les entreprises aussi, hein, elles sont plus fragiles socio-économiquement. Les populations sont vieillissantes aussi, ça crée des difficultés. Mmh. On a aussi une dépendance par rapport à des modes de vie qui a autrefois posé pas de problème. Avant, on allait chercher son eau à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez un robinet qui coule. Aujourd'hui, vous avez Internet. Aujourd'hui, vous avez besoin de la route, par exemple, pour vous déplacer, aller travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, on voit que nos modes de vie créent des fragilités supplémentaires.
Quand on regarde justement la carte des zones inondables aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on se dit, Magali Reguet-Zazit, exactement ?
Alors, quand vous regardez une carte de France, d'abord, vous êtes surpris par le nombre de cours d'eau. C'est bleu. C'est magnifique, hein ? Il y a ce qu'on appelle des chevelus, il y en a partout. Il y a des cours d'eau partout. On n'a pas conscience de la richesse hydrologique de notre territoire. Et ce qu'on voit, c'est les fleuves et les rivières. On ne voit pas les nappes qui sont en dessous. On ne voit pas la neige. On ne voit pas la mer qui peut aussi venir inonder. Donc, on a des inondations qui, aujourd'hui, sont de quatre natures, des submersions. Elles peuvent venir des cours d'eau, elles peuvent venir des nappes, elles peuvent venir de la mer, et elles peuvent aussi venir de ce qu'on appelle le ruissellement urbain, c'est-à-dire de surfaces imperméables où l'eau ne s'infiltre pas, et donc elle stagne, elle inonde. Et quand vous regardez une carte, en fait, vous voyez qu'il y a les populations, elles ont suivi les cours d'eau. C'est logique. Quand vous avez un cours d'eau, c'est pratique. Parce qu'il y a de l'eau, justement. Et puis, ça permet de se déplacer, ça permet de se protéger, ça permettait jadis de laver son linge, ça permettait jadis de pouvoir faire du commerce, ça permettait d'irriguer, ça permet plein de choses.
Cela dit, s'il y en a partout sur le territoire, c'est difficile aussi d'habiter loin des cours d'eau, alors.
C'est très difficile d'habiter loin des cours d'eau, c'est très difficile d'habiter loin des nappes, parce qu'on peut forer aussi sur des nappes. Les agriculteurs en ont besoin pour irriguer. Et puis, ces cours d'eau, ils en prennent des vallées. Et ces vallées, elles sont planes. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire des gros travaux de terrassement quand vous voulez poser une route, puis un chemin de fer, puis une autoroute, et puis... Donc, c'est pratique. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que on a la plupart des très grandes villes françaises sont posées, alors non pas sur le cours d'eau, elles sont légèrement à côté ou légèrement au-dessus. Parce qu'un cours d'eau, ce qui est fascinant, c'est que ça modèle le paysage et donc ça va vous créer ce qu'on appelle des terrasses alluviales, c'est-à-dire en gros des bourrelets qui sont formés par des alluvions. On va vous poser la ville dessus, elle est un peu plus loin du cours d'eau. On va se mettre aussi sur des collines. Vous savez, les sites d'Oppidum, dont on, Astérix, l'Oppidum. Ouais. L'Oppidum, en fait, c'est un joli site, on est au-dessus d'une petite butte, et donc on regarde l'eau qui passe en dessous. Et puis en plus, ces sites, ils étaient vraiment intéressants, parce que quand vous aviez, par exemple, un cours d'eau, ben, le cours d'eau, il arrive à la mer. Que font les envahisseurs, que ce soit des pirates ou des vikings? Ils remontent votre cours d'eau, et donc, vous avez intérêt à être un peu en hauteur pour vous protéger. Donc historiquement, les villes se sont déployées le long des fleuves, et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire des villes, vous avez toujours une mythologie qui est associée. La déesse Sequana avec la Seine, par exemple. Mais vous en auriez plein d'autres sur Lyon, sur... Enfin, toutes les villes ont leur histoire avec leurs fleuves. Bon, une fois qu'on a dit ça, on voit aujourd'hui qu'en fait, ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'avec la croissance démographique et avec l'exode rural qui a fait qu'à un moment donné, les villes ont grandi, les villes se sont étalées. Elles se sont étalées et pour trouver de la place, ben, on est allé chercher des terrains qui étaient plats. Mmh. Et donc, peu à peu, on est allé s'installer dans des zones à risque. Et ces zones à risque, on pensait qu'elles étaient protégées par des digues. Et donc, on a oublié le danger. Et donc, peu à peu, on a vu des terrains, soit des terrains agricoles, dont on a oublié qu'ils étaient inondés, soit des espaces qui avaient déjà été construits derrière des digues, soit des territoires qui étaient, pour des tas de raisons pratiques, parce que c'était plus plan. Et peu à peu, années 60, 70, 80, beaucoup dans les années 80, beaucoup dans les années 90, pour aussi, parce que les prix du foncier en centre-ville devenaient très chers, on s'est éloigné.
Ouais, donc il y a eu cet étalement, effectivement. Mais quand on regarde encore une fois cette carte des zones inondables, qu'est-ce qu'elle nous raconte là, de l'avenir à moyen terme?
Elle nous raconte qu'on est très vulnérable. Une commune sur deux, aujourd'hui, a tout ou partie de son territoire qui est exposée à une inondation, par la mer, par le fleuve, par la pluie ou par les nappes phréatiques.
Une commune sur deux.
Un okay. Français sur quatre. Mmh. Et encore, on ne compte pas là les effets dominos. Parce que par exemple, mon usine d'assainissement de l'eau, elle est sous l'eau, je peux habiter à 10 km, 20 km, j'ai plus d'assainissement. Ma voie ferrée ou ma route, elle est sous l'eau, je suis très content d'être chez moi, je ne suis pas touchée, mais je ne peux plus aller travailler. Donc en réalité, on voit que derrière, on a aussi des mécanismes aujourd'hui de dépendance entre les territoires qui sont liés à notre manière de vivre. Hein. Au fait, justement, grâce à la vitesse de pouvoir nous éloigner des centres, de pouvoir être moins densément agglomérés, eh bien on voit qu'en fait, beaucoup d'activités, beaucoup de Français sont exposés directement, indirectement, donc avec des très gros dommages matériels, mais aussi de plus en plus des pertes économiques, donc des pertes de PIB, avec aussi des pertes de récoltes, qui elles-mêmes engendrent des pertes économiques, avec aussi des pertes de stock pour les entreprises, donc à nouveau des pertes. Et parfois, ce qui est terrible, c'est que la perte, enfin, l'inondation est terminée, les pertes arrivent. Tout ça, c'est une transformation du risque qui est le reflet très exact de la modernité, mais qui évidemment fait que la carte de France telle que vous la voyez, elle ne reflète pas exactement la nature des dommages qui sont consécutifs à l'eau.
Alors justement, si on avait envie de protéger la moitié de la population, enfin non, l'ensemble du territoire d'ailleurs, ça veut dire qu'il faudrait déménager la moitié de la population?
Alors on n'espère pas, d'abord parce qu'on peut vivre avec l'eau. Là aussi, il faut savoir quel risque on est prêt à accepter. Mmh. En fait, derrière, ça veut dire qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour se protéger? Qu'est-ce qu'on va prioriser? Ça peut être évidemment, dans certains cas, protéger des maisons. Ça peut être protéger des activités par des barrières. Mais on peut aussi imaginer qu'à un moment, quand on va refaire sa maison, on va la reconstruire avec, par exemple, un niveau supérieur, on va changer les matériaux. Tout ça, ça s'appelle l'adaptation.
On va en parler, hein, évidemment, avec vous. Et puis, vous répondrez, Magali Reguizazit, aux messages, aux témoignages aussi, certainement, d'auditrices et auditeurs concernés par ces crues. Et puis, nous attendons donc ces messages sur la page de La Terre au Carré, sur franceinter.fr. On parlera aussi de l'importance du sol avec vous dans un instant.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous résumer la situation dans le département de la Sarthe et plus particulièrement au Mans ? Le département de la Sarthe est un département extrêmement arrosé au point de vue hydrographie. Et par conséquent, nous avons malheureusement l'habitude d'avoir de temps en temps des inondations, mais dans l'ensemble, les services de sécurité en fonctionnent d'une façon admirable. Et je puis dire que nous avons à tout moment eu la situation en main. C'est aussi bien dans le nord du département qu'au Mans, que dans le sud du département maintenant. Je crois que nous pouvons considérer que les services d'ordre ont fonctionné d'une façon absolument parfaite.
Le préfet de la Sarthe en 1966, Pierre-Marcel Wiltzer, qui prenait les autorités dans le sens du poil, on l'a bien entendu dans ce message. Magali Reguedzazid, vous qui êtes géographe, spécialiste de l'environnement et des catastrophes naturelles. Est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous me disiez en antenne au sujet des préfets?
Oui, c'était une époque où les préfets sautaient. Dès qu'il y avait un problème. Pourquoi ? Alors c'est intéressant ça aussi, parce qu'à l'époque, la gestion de crise, c'est ce qu'il dit. Il parle de la sécurité civile, de la sécurité intérieure. On gérait les crises. On n'était pas dans une logique de prévention. On était d'abord dans une logique de crise, et donc il était très fréquent que le préfet saute. Ouais. Par la suite, ça a été la faute de Météo France. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les inondations, c'était la faute de Météo France. Aujourd'hui, c'est soit la faute des maires, soit la faute des gens. Et je trouve cette bascule très problématique, très inquiétante, parce que, et on l'a vu, moi je l'ai vu en tant que chercheuse, finalement c'est faire glisser la responsabilité de décisions collectives, antérieures, héritées, notamment de ce fameux aménagement de territoire sur les individus. Alors bien sûr, il y a des élus locaux, et il y a des personnes qui ont fait et font n'importe quoi. Mais dans beaucoup de cas aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de gérer les héritages. Les héritages, bien sûr, des émissions de gaz à effet de serre passées, c'est le changement climatique, mais surtout des héritages de choix d'aménagement qui ont fait que les gens, et je mets beaucoup de guillemets avec les gens parce que c'est comme ça qu'on désigne les populations, ne sont pas forcément responsables de cette exposition, ne sont pas responsables de cette vulnérabilité.
Quand vous dites on doit gérer, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre du passé, on doit aussi faire qu'aujourd'hui, les politiques en la matière ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, quand même. Hein.
Et là, vous mettez le doigt sur un point qui, pour les scientifiques, est très extrêmement inquiétant, c'est que jusqu'à présent, les inondations se passaient dans un climat relativement stable. Donc, quand on dimensionnait les ouvrages de protection, on dimensionnait pour un risque qui était stable. Le problème aujourd'hui, c'est que dans un climat qui change, eh bien le niveau de risque va augmenter, on l'a vu, parce que les phénomènes augmentent. Et ça, très concrètement, ça veut dire qu'un certain nombre de solutions qui ont toujours fonctionné ne fonctionneront plus. Ça veut dire aussi que certaines solutions qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui risquent d'être totalement obsolètes dans le passé.
Donc la question des digues, par exemple, qui peuvent donner l'illusion d'une sécurité ?
La question des digues, elle est fondamentale. Endiguer, c'est quelque chose de... Les premières digues, elles sont construites bien avant Jésus-Christ. Ça permet effectivement de contrôler le fleuve, ça permet de l'utiliser aussi parce que le fleuve peut fertiliser, c'est le cas des crues, on connaît les crues du Nil, mais on pourrait les crues de la Loire. Tout. Donc il y a vraiment une structuration des digues, sachant que pour ces digues, il y avait derrière toute une organisation sociale qui était là pour entretenir les digues. Les corvées seigneuriales, si vous allez vous promener cet été sur la Loire pendant vos grandes vacances, vous avez ce qu'on appelle les levées, les turcis, ce sont les grandes digues de la Loire, on les a complètement oubliées. C'était des corvées seigneuriales qui permettaient de les entretenir parce que la digue, ça coûte non seulement très cher à construire, mais ça coûte cher à entretenir. Et puis au fil du temps, ces digues, en fait, elles ont été oubliées. Ces digues ont été oubliées. Et du coup, on est allé se mettre à l'abri de la digue. Sauf que cet abri, il est relatif au niveau d'eau, à l'entretien, et puis il est relatif au phénomène. Et donc le problème, c'est que la digue, elle peut céder, ou bien que le phénomène est trop important et qu'on va avoir ce qu'on appelle une surverse. Mmh. Là, c'est extrêmement dangereux, parce que vous avez une vague déferlante qui arrive. Et donc tout le sujet, c'est se dire aujourd'hui, ces digues, est-ce qu'il faut continuer à en construire ? Oui, probablement, pour protéger l'existant. Mais, et c'est là tout le problème, c'est que si on continue à densifier derrière la digue, on va augmenter l'exposition et la vulnérabilité. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va demander aux communes de maintenir des digues, voire en construire, alors même qu'on va leur demander de faire comme si elles étaient transparentes, c'est-à-dire de ne plus rien implanter derrière la digue. Vous comprenez très bien que dans un contexte aujourd'hui de finances publiques très tendues, alors que le kilomètre de digue coûte une fortune, les élus ne comprennent plus. On va leur demander de payer l'entretien des digues, et derrière, on ne peut plus installer de gens. Et tout le sujet, c'est ça. C'est, il ne faut pas évidemment mettre à bas ce qu'on a construit, mais il faut se poser la question, dans un climat qui va continuer à se réchauffer tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone,
oui.
est-ce que des solutions qui ont toujours fonctionné sont encore pertinentes ?
Ce que vous nous dites, qui est très clair à entendre, hein, est-ce que justement ceux qui nous dirigent prennent les bonnes décisions, ou en tout cas sont sensibilisés par rapport à ces problématiques ? Quand on voit là encore ce qui s'est passé ces dernières semaines, est-ce que ça crée un électrochoc aussi dans la façon de penser l'aménagement du territoire ?
Non, parce que justement, l'aménagement du territoire, c'est un impensé. C'est un impensé parce que nous vivons d'abord dans des territoires qui ont été profondément modifiés, au point qu'aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens, moi la première avant de devenir géographe, je considérais comme étant naturel, comme faisant partie du paysage, des choses qui étaient totalement d'origine humaine. Ce que je vous disais de ces digues, beaucoup, quand vous vous baladez sur une digue et que vous dites à quelqu'un « je suis sur une digue », les gens vous disent « ah bon, où ça ?» Ben, vous êtes dessus. On a oublié ces digues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que derrière cet aménagement du territoire, on a l'idée de l'aménagement, vous savez, des années 60, 70 ou De Gaulle, avec la Datar, l'aménagement du territoire. On oublie aujourd'hui que cet aménagement, il va falloir effectivement relocaliser, redéfinir des implantations, redéfinir des réseaux, redéfinir des logiques de fonctionnement. Il va falloir repenser des territoires pour faire face aux défis du climat.
Ben oui, ça ne peut pas rester un impensé, clairement. Oui.
Pour le coup, ça reste un impensé. Je vous donne juste un exemple. Quand on a créé ce fameux SGPE, ce Secrétariat Général pour la Planification, qui a été important, qui a fait beaucoup de choses, et bien derrière, il n'y avait pas d'aménagement du territoire. Il manquait cette étape, parce qu'on confond aujourd'hui en France l'idée que aménager, c'est le local. Donc en fait, on va faire des grands plans et puis ensuite, on va demander aux élus locaux de mettre en place. Bien sûr que les élus locaux, ils font de l'aménagement du territoire, ils font de l'urbanisme. Mais derrière, les territoires, ils ne fonctionnent pas en isolat. Et donc, il va falloir articuler tout ça, réfléchir à tout ça en fonction des impacts du réchauffement, parce que là, on parle inondation. Mais il faudrait aussi parler sécheresse, il faudrait aussi parler canicule, il faudrait aussi parler incendie, il faudrait aussi parler crise de la biodiversité, il faudrait aussi parler problèmes géopolitiques, parce qu'il n'y a pas que ça, il faudrait parler problèmes économiques, il faudrait parler vieillissement. Donc en fait, derrière, c'est finalement...
C'est des choses dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment, pendant la campagne municipale quand même.
Alors on en parle localement, dans beaucoup de villes, enfin, beaucoup de communes, parce qu'il n'y a pas que des villes, à travers un certain nombre de projets, notamment dans les communes qui ont été touchées par des catastrophes. Et là, vous avez vraiment une fracture qui est de plus en plus forte entre, d'un côté, des communes qui ont été victimes et qui continuent à panser leur plaie,
ouais.
avec des élus qui ont pris le choc et qui, parfois, sont vraiment très, très... très très affecté, et puis des communes qui se pensent à l'abri ou qui n'ont pas encore connu de choc.
Donc, tant que la catastrophe n'est pas arrivée, finalement, on met ça sous le tapis, et puis business as usual.
On n'en a même pas conscience, parce qu'en fait, c'est trop gros. Pour avoir travaillé sur la Seine, je me souviens, il y a 20 ans de ça, quand je parlais aux gens, quand je leur donnais les chiffres, on me disait, non mais madame, c'est bon, enfin, ça va, on a Paris quand même. Les fleuves ne débordent pas. Et il y a d'une certaine manière, dans la représentation par rapport à l'eau, cette espèce d'incapacité réelle. C'est pas quelque chose de volontaire. Imaginez un fleuve qui déborde. Imaginez de l'eau dans les rues. Est-ce que parmi vous, par exemple, ceux qui nous écoutent, quand on imagine un fleuve dans la rue, est-ce qu'on imagine son odeur ? Est-ce qu'on imagine sa couleur ? Le bruit, la puissance, toute cette matérialité de l'eau, on ne la voit pas parce que notre société a mis à distance... L'eau, quand l'eau déborde, c'est parce que vous avez une fuite d'eau chez vous. Voilà. L'eau, elle ne déborde pas dans les villes. Et souvent, par exemple, quand vous dites à des gens, ben voilà, il y a une inondation, on vous dit, ah oui, mais alors, ça sent mauvais, il y a de la boue, puis c'est dégueulasse après, la moisissure, et puis il y a des déchets. Moi, je me souviens, après les crues de la Seine de 2018 et 2016, où on voyait des déchets partout dans les rues, et les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc vous voyez, on a ce rapport à l'eau qui est...
Ouais. On peut renvoyer sur les émissions qu'on avait fait avec vous sur la crue centenale de Paris, hein, parce que franchement, on en a fait un certain nombre ensemble, Magali Riguizazit, donc il y a des précédents, oui. Et on n'est pas du tout à l'abri, évidemment, que ça se reproduise, avec des conséquences beaucoup plus catastrophiques, humainement, financièrement, et finalement, c'est ça qui est assez, assez désemparant, finalement, c'est que ces crues-là qu'on a vécues, ce sont des drames humains, économiques. Ça coûte énormément d'argent, ça va se multiplier, on le sait, et pourtant, on voit nos politiques qui sont encore en deçà des...
Et je vais choquer, mais ça ne coûte pas très cher en réalité. Parce que quand vous regardez ces événements, ils sont souvent, pour l'instant, dans des territoires peu denses. des petites villes, des villes moyennes, des territoires ruraux. Aujourd'hui, une inondation, quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000, 2005, une grosse inondation, c'était 400 000 euros. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 1 milliard. Une inondation de la Loire, une inondation du Rhône, une inondation du Rhin, une inondation de la Seine, on est à plusieurs milliards d'euros. Mmh. Une crue centennale de la Seine, c'est 60 à 100 milliards.
Ouais.
Donc si vous voulez, les fourchettes, mais quand je vous dis 100 milliards, 100 milliards, c'est quoi? C'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est plus que le budget de la défense. On est sur des chiffres qui sont absolument vertigineux. Et c'est tellement vertigineux, c'est un peu comme le changement climatique, qu'on se dit finalement, bon ben...
Donc la prévention est moins chère quand même, c'est peut-être
alors,
la
prévention est moins chère et tout le sujet c'est au bout d'un moment, comment est-ce qu'on fait à prévenir quelque chose d'inéluctable? Mm-hmm. Parce qu'à un moment, quand vous êtes par exemple sur la Loire il y a une grande crue en 1856, à un moment vous ne pouvez pas empêcher l'eau. Vous pouvez faire baisser un peu le niveau, mais vous ne pouvez pas empêcher ces masses d'eau de déferler. Et donc qu'est-ce qu'on fait?
Ben justement, ce sera la discussion que nous aurons. Très bonne transition, Magali Reguizazid, pour la troisième partie de cette Terre au Carré. Et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de messages, de réactions, de témoignages. Oui. Lucie Sarfati me le confirme sur la page de l'émission. Donc vous continuez à nous envoyer ces messages. Je les transmets dans un instant à Magali Reguizazid.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
La Réole est une commune divisée en deux par la Garonne. Le fleuve a inondé les habitations à proximité des quais. Cet après-midi, les riverains enchaînent les allers-retours vers cette benne pour jeter leurs affaires inondées. Samy a dû vider son appartement souillé par la boue.
J'ai tout jeté, j'ai vraiment plus rien. Il me reste quoi? Bah, deux tables peut-être, des chaises. Et voilà, pour l'instant, j'ai plus vraiment plus rien.
Voilà, avec des situations humaines qui se sont multipliées lors de ces crues. Par exemple, à la Réole, en Gironde, Magali Reguizazid, vous qui êtes notre invitée spécialiste des catastrophes naturelles et vous êtes géographe. Il y a pas mal de messages qui arrivent pour vous, je vais vous transmettre dans un instant. Face à tous ces risques, quelles sont les premières réponses indispensables aujourd'hui si on veut vraiment protéger la population?
Alors d'abord, la première réponse, c'est de renforcer nos systèmes de secours. Parce qu'avec la multiplication des crises qu'on connaît sur le territoire, si aujourd'hui ça marche bien, enfin, si aujourd'hui en fait on ne prévient pas, c'est parce que justement la gestion de crise est encore très bonne. On a vraiment des pompiers, on a des services dans les préfectures, enfin, on a une structure de gestion de crise qui fonctionne très bien et qui évite en fait d'avoir vraiment des morts, d'avoir vraiment des blessés.
Mais il faut le renforcer.
Il faut le renforcer parce que ces services sont sous pression et on arrive de plus en plus dans ce qu'on appelle des situations de rupture capacitaire. Il n'y a plus le matériel nécessaire, il n'y a plus les hommes nécessaires, et les femmes bien sûr, il n'y a plus les réseaux nécessaires. Donc là, il faut vraiment protéger cette gestion de crise. Ça ne suffit pas. Et en fait, on a deux leviers. On a un premier levier qui est en aval. C'est tout ce qui est système d'indemnisation, système de tout ce qui va permettre aux gens de repartir et si possible de ne pas reconstruire à l'identique. Donc en fait, c'est de profiter entre guillemets de cette catastrophe pour essayer de réduire l'exposition et la vulnérabilité.
Donc ça veut dire dans la plupart des cas quitter les lieux?
Alors pas forcément, mais ça veut dire par exemple que quand on va refaire l'appartement, et ben au lieu de mettre de la moquette et d'avoir des prises au niveau du sol, et bien on va monter les prises, on va mettre du carrelage, on va aussi peut-être installer des bâtards d'eau. Quand on va refaire sa maison, par exemple, à l'occasion d'une rénovation énergétique, ça sert aussi pour payer moins cher sa facture énergétique à la fin du mois. Et bien, on va peut-être pouvoir, par exemple, remonter certains niveaux, désencombrer les sous-sols, avoir un étage supplémentaire. Donc tout ça, ça coûte évidemment très cher. Et donc ça veut dire aussi dimensionner les aides, dimensionner les prêts. Et puis à côté de ça...
Mais c'est pas toujours possible.
Et c'est pas toujours possible en amont. En amont, on a aussi besoin de réfléchir avec un peu plus de temps sur ces systèmes de prévention. Alors ça peut être parfois renforcer des digues, ça peut être parfois renforcer les alertes, mais ça peut être aussi travailler sur tout ce qui peut permettre à l'eau de mieux s'infiltrer.
Alors voilà, parlons du sol, par exemple.
On va parler du sol, et donc ce sol, il est absolument fondamental. Le sol, on marche tous dessus, et pourtant personne ne sait ce que c'est. C'est un truc, si je vous parle des horizons du sol, c'est ultra poétique.
Oui, c'est quoi?
Personne. En fait, le sol, il y a des couches. C'est des couches, et le sol, c'est fascinant. Enfin, il faudrait faire des émissions entières sur les sols, parce que c'est justement, là, j'allais dire avec un mauvais jeu de mots, la terre inconnue, la terra incognita. Parce qu'en fait, ces sols, on ne les connaît pas.
Mais les horizons du sol, c'est quoi?
Alors, les horizons du sol sont ces couches, en fait, qui vont se superposer, qui vont faire que ce sol... En fait, le sol, c'est quelque chose de vivant. Voilà.
Donc, ça doit respirer.
Ça doit respirer. Il y a de la végétation, il y a ce qu'on appelle le microbiote, c'est les petites bactéries, le petit vivant, il y a des vers de terre, il y a des insectes, il y a tout ce que vous voulez dans les sols, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui circule, puis il y a de la roche aussi. Donc il y a des matières organiques en décomposition, il y a de la roche sur laquelle repose votre sol. Et donc tout ça est très important parce que ces sols, ils sont utilisés, ils sont nourriciers, donc ils sont utilisés par l'agriculture, ils sont utilisés par la foresterie, puisqu'on va planter aussi des arbres. Et surtout, c'est des surfaces sur lesquelles on peut construire.
Mmh, ben on peut poser... voilà. C'est là où le bât blesse. Hein.
C'est là où le bât blesse. Alors pas forcément, parce qu'on a d'abord des manières de construire qui protège plus ou moins le sol. Par exemple, on peut construire en hauteur, sur pilotis. Alors, on ne va pas construire sur pilotis partout, bien évidemment. On a aussi une possibilité, c'est de désimperméabiliser quand c'est possible. Parfois, ça ne l'est pas. Parfois, ça ne l'est pas parce que vous avez des sous-sols qui font que si vous enlevez la couche imperméable, bah, l'eau s'infiltre. Mais on peut recréer du sol sur le sol. Et vous avez aujourd'hui des tas d'architectes paysagistes, par exemple, qui travaillent pour recréer sur du béton, sur du bitume, sur des dalles de parking, sur tout ce que vous voulez, des sols qui redeviennent vivants. Je pense toujours à ce projet de Basmet à Arles, où il a recréé sur une friche industrielle un véritable écosystème, une zone humide, où en fait, avec des arbres, avec des micro-reliefs, et ça, ça va vous créer en fait complètement un nouveau paysage, mais qui va être aussi vivant. Ça peut être aussi autour des villes, replanter des arbres, à condition qu'ils poussent. Avec le changement climatique, c'est pas simple. Mmh. C'est tout ce que font aujourd'hui les agriculteurs sur le travail du sol.
Alors c'est ça, les paysages agricoles aussi jouent un rôle majeur.
Hein. Les paysages agricoles jouent un rôle majeur. Quand on nous est... Enfin, moi, je pense toujours à mes étudiants qui me disaient « Oh, c'est beau, c'est totalement naturel. Le bocage naturel, les champs ouverts naturels. » Évidemment pas. Et donc, on n'imagine pas à quel point ces paysages, en 50 ans, ils ont changé. Mmh. Et donc, par exemple, le sol, couvrir le sol aujourd'hui, avoir toujours un sol couvert, augmenter les rotations, faire des labours moins profonds. On a aujourd'hui énormément de pratiques agricoles qui vont essayer de protéger davantage les sols. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand le sol est lessivé par la pluie, il perd ses minéraux, il perd sa capacité à produire. Et donc aujourd'hui, les agriculteurs ont aussi besoin de protéger les sols. Les forestiers ont besoin de protéger les sols. Et puis vous avez aussi aujourd'hui des travaux qui sont menés pour avoir par exemple de nouveaux enrobés sur les routes, pour faire en sorte que ces routes, alors c'est compliqué hein, de faire des bitumes, etc., mais là aussi soient moins agressifs pour le milieu. Donc l'idée, c'est de combiner de la technique, des pratiques et de l'aménagement du territoire,
ouais,
pour savoir aussi quel foncier protéger ou renaturer, alors c'est renaturer, ça veut dire que c'est totalement artificiel, hein, mais renaturer pour permettre au sol de revivre, de respirer, et aux écosystèmes de jouer leur rôle. La première réponse à l'inondation, ce sont ce qu'on appelle les services écosystémiques, les solutions fondées sur la nature.
Alors, il y a des obstacles qui sont d'ordre financier, hein, évidemment, oui, hein, sur tous ces projets d'adaptation. La question des assureurs, par exemple, hein, oui, qui aujourd'hui, c'est une vraie question, un vrai problème, qui refuse même d'assurer certains biens, certaines communes. Ça, c'est la question du financement des catastrophes futures, et ça va être un vrai sujet, hein, pour nos sociétés.
Ça va être un sujet, et on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est quelle sécurité nos sociétés sont prêtes à payer, et qui est prêt à payer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont les plus pauvres qui sont les plus démunis, les plus exclus, qui sont le plus exposés et qui ont le moins de moyens pour se protéger. Et donc c'est la question de la solidarité nationale derrière. Est-ce qu'on va aller vers un modèle beaucoup plus privé sur l'individu, ou est-ce qu'au contraire on va devoir mutualiser le coût de ces catastrophes pour essayer d'empêcher des citoyens ou des entreprises de sombrer?
Est-ce qu'il faut aussi envisager, ce sera ma dernière question avant de passer à celle des auditeurs et auditrices, déplacer les populations, Magali Rigzazit?
Oui. Oui, et ça c'est terrible parce que des populations, mais aussi des activités économiques, c'est quelque chose de psychologiquement terrible. Ça prend du temps, il faut accompagner tous ces gens, et puis ensuite il faut détruire. Donc ça doit être fait avec parcimonie. Mais c'est quelque chose qui, malheureusement aujourd'hui, fait aussi partie des solutions.
Allez, on passe aux questions. Avec un message de Mireille qui nous dit « Que penser par exemple de nouvelles implantations industrielles en Gironde, par exemple à La Ruscade, 75 hectares en zone inondable, pour implanter une fabrique de ballons, ou à Gratiquina, raffinerie classée Seveso O en bordure de Gironde ?»
C'est toujours un peu surprenant, alors après je ne connais pas les projets, hein, mais c'est toujours un peu surprenant de voir qu'on continue à implanter des activités, notamment des activités polluantes en zone inondable. Parce que derrière, effectivement, on augmente le risque. Alors après, on peut toujours protéger, mais là aussi, il faut mettre en balance le coût de la protection et le niveau de risque. Aujourd'hui, on ne devrait plus construire certaines choses en zone inondable.
On écoute le message de Serge.
Bonjour, je m'appelle Serge, j'écoute votre émission Terre au Carré sur les inondations. Vous n'avez pas parlé des promoteurs et des terrains constructibles dans les zones inondables, soit par les mairies ou soit par d'autres gens. Je vous remercie, bonne journée.
Et merci d'avoir posé cette question, Serge.
Alors, d'abord, là, aujourd'hui, quand même, une grande partie des zones inondables sont couvertes par ce qu'on appelle des plans de prévention des risques, qui sont donc des servitudes d'urbanisme qui font qu'on ne peut pas construire n'importe où et n'importe comment. Mmh. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on est dans une zone inondable qu'on ne peut pas construire. On a aujourd'hui des projets architecturaux qui permettent, par exemple, de vivre avec l'inondation. C'est ce qui a été fait à Romorantin, il y a maintenant quelques années, par un architecte qui s'appelle Éric Daniel Lacombe, et qui a reconstruit un quartier entier dans une zone inondable, mais en surélevant les planchers, en surélevant un certain nombre de routes. Donc, on peut construire, là encore, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Par contre, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours de la spéculation foncière, que le foncier est très cher, qu'il y a des besoins de logement, et que donc, il y a toujours un conflit entre développement local et puis inondation.
Mais justement, Anne demande comment réagir face à un maire qui fait appel à de grands promoteurs dans une ville prise en étau entre la Seine et la forêt, par exemple, sans citer la commune.
C'est un cas typique. Alors, si on a un plan de prévention des risques, normalement, c'est plus possible. Mmh. C'est pas toujours le cas. Le problème aussi, c'est que ces plans de prévention des risques, pendant des années, ont été contestés. Ils ont été contestés, donc on a continué à urbaniser des zones inondables en toute légalité. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que pour une commune, le foncier bâti, ça rapporte toujours beaucoup plus que du foncier non bâti. Et pour le coup, dans une transition climatique, vers ce vers quoi on doit aller, il faudrait que le foncier non bâti, ce sol, devienne plus rentable. Et il est plus rentable. Il stocke de l'eau, il stocke du carbone, il permet de fabriquer de la nourriture, il permet de fabriquer de l'énergie.
Mais il faut avoir une vision à long terme pour ça. Hein.
Il faudrait avoir une vision à long terme, oui.
Claude nous envoie un message vocal.
Bonjour, Claude de Trélazé, à côté d'Angers. Une question à votre intervenante. Est-ce que les centrales nucléaires qui sont construites au bord des fleuves et qui vont peut-être être encore construites sont bien préparées aux effets d'inondation? Au revoir.
Magali Reguedzazit.
Alors oui, sur les inondations, elles sont très très bien préparées. La sécurité nucléaire, pour le coup, et la sûreté nucléaire, ça s'est pris en compte. Mm-hmm. Il y a un sujet, par contre, qui est intéressant derrière cette question, c'est plutôt la question en fait, de ce qu'on appelle l'étiage, c'est-à-dire des sécheresses estivales et des crues. Et en fait, ce qu'on a dit au tout début, c'est qu'on va avoir de plus en plus de sécheresses et des périodes de crues, mais très irrégulières. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de calibrer les ouvrages de protection pour que ça soit pas trop ou pas trop peu. Là, on parle des inondations par les fleuves. Je pense qu'on pense par exemple à tout ce qui est le couloir du Rhône. Mmh. Il reste la question de la mer. Mais ça, c'est un autre sujet, avec une mer qui monte de plus en plus. Mais ça, c'est une autre émission.
Mmh. Dernière question très vite de Gilles. Est-ce que la Hollande, par son expertise en hydrologie, est mieux préparée à la montée des eaux que d'autres pays en France?
Oui, sauf qu'en Hollande, les digues, elles sont 10 millénales. C'est-à-dire qu'elles sont préparées pour faire face à des inondations qui ont lieu une fois sur 10 000 en moyenne par an. Nous, c'est plutôt centennal. Il faut rappeler que la Hollande, c'est un polder. Ce sont des terres sous la mer. Pour eux, l'inondation, c'est une question de survie. Donc, eux, effectivement, c'est rentable de faire des ouvrages. On ne pourrait pas avoir ça en France, étant donné le linéaire et étant donné le coût de ces ouvrages. Ça, aucune comparaison.
Merci beaucoup Magali Reguedzazit. Je signale qu'en mai prochain sortira un essai BD que vous signez. Bienvenue en 2055 dans un monde neutre en carbone aux éditions du Seuil. On aura l'occasion de reparler de ce livre dans notre émission. Merci à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier, Achille Akmin à la technique et Jérôme Boulet qui était à la réalisation.